Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. En France, le début de la semaine a été marqué par des appels du corps médical à rapatrier la fabrication de plusieurs molécules clés pour soigner le cancer. Les médicaments manquent et le pays n'a plus d'usine pour les produire. Le même problème s'était manifesté au mois de mars dernier, alors que les masques ou le matériel de réanimation faisaient cruellement défaut. Plus généralement, la France fait face à une désindustrialisation de son économie. Ce qui est apparemment en cause, ce sont les délocalisations, le départ des usines vers des cieux où les coûts de production sont moins importants. Souvent, c'est la Chine ou l'Asie qui attire vers elle ses centres de production. Et les États-Unis font face au même problème. C'est d'ailleurs l'un des moteurs de la politique agressive de Donald Trump vis-à-vis de la Chine. Face à ces délocalisations, à cette désindustrialisation, un nouveau mot a fait son apparition dans le langage des politiques et des économistes. Ce sont les relocalisations. Ramener sur le territoire français les usines qui sont parties, reprendre le contrôle de la production de produits importants pour l'économie ou pour la vie quotidienne. Pourtant, ces dernières heures, ce n'est pas une relocalisation qui a fait l'actualité, mais la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune dans le nord de la France. Aussi, allons-nous, au cours de cette émission, essayer de voir si le volontarisme politique pourra l'emporter un jour sur la réalité économique avec deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour El Mouhmoud.
Bonjour.
El Mouhmoud, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, dont vous êtes vice-président. Vous êtes un spécialiste des questions liées à la mondialisation. Et je renvoie à vos ouvrages, l'un qui est paru en 2017 dans la collection Repères à la découverte. Ce livre s'intitule « Mondialisation et délocalisation des entreprises ». Et vous préparez un livre aux éditions Le Pommier, qui devrait s'appeler « Relocaliser l'économie ». Il est attendu pour le mois de janvier, c'est ça ?
C'est cela, oui.
Avec vous en studio, Olivier Luancy, bonjour.
Bonjour.
Olivier Luancy, vous êtes associé chez PwC, PricewaterhouseCoopers, un des géants mondiaux de l'audit et du conseil aux entreprises. Vous avez derrière vous une longue carrière qui vous a mené de la Commission européenne à un poste de conseiller de François Hollande au début de son quinquennat, conseiller pour l'industrie. Entre-temps, vous avez été responsable des activités de Saint-Gobain pour l'Europe centrale et orientale et vous venez de publier un livre qui tombe à pic, son titre « Vers la renaissance industrielle », son éditeur Marie B. Dans cette émission, bien sûr, des reportages. Nous retrouverons Michel Picard à Tunis en fin d'émission, Clémentine Métainier dans la région lyonnaise et un entretien de David Bachet avec Frédéric Sanchez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. Une première question que je vous pose à tous les deux, peut-être à vous d'abord, Olivier Luancy, dans son plan de relance, 100 milliards d'euros. Le gouvernement français a réservé une ligne, 1 milliard, pour favoriser des relocalisations sur le territoire national. Est-ce que c'est cohérent avec une situation de crise économique qui voit des centaines de milliers d'emplois disparaître et des usines fermées, l'un des derniers exemples étant celui de l'usine pneumatique Bridgestone à Béthune dont je parlais à l'instant. Est-ce que ça tombe à pic ou ça tombe très mal ?
Oh bah, l'événement Bridgestone va faire débat et ça va, j'espère, et on va le voir dans cette émission, permettre de mettre les choses en perspective. Il y a eu beaucoup de désindustrialisation et des délocalisations, notamment accélérées à partir des années 90, on y reviendra peut-être. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, on le savait avant la crise, mais simplement on en a pris conscience avec la crise, que cette désindustrialisation nous a mis dans une situation de vulnérabilité exacerbée. Hein, on l'a vu sur les médicaments, mais il y a d'autres catégories de produits sur lesquels on pourrait, les médicaments et les masques, on pourrait dire la même chose sur d'autres catégories de produits. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est plusieurs des relocalisations, mais qui n'ont pas les mêmes finalités. Si les consommateurs français devenaient des consommateurs acteurs réels, il y a une déclaration d'intention, l'acte ne passe pas, on aurait une relocalisation. L'État, à travers ce 1 milliard, en tant que garant de la souveraineté, va faire des relocalisations comme il les a annoncées pour le Doliprane. On parlera peut-être de l'ampleur, qui n'est pas si importante que ça, hein. Mais le but, c'est la fonctionnalité de l'État, assurer la souveraineté. Et puis, il y a un mouvement de fond qui était antérieur à la crise, qui va s'accélérer avec la crise, où en fait, dans les chaînes de valeur, on a besoin de plus de proximité, l'hybridation produits-services, les enjeux environnementaux comptent encore plus, et donc on a une vague de fonds économique qui la répond aux critères économiques de relocalisation de l'activité à proximité des marchés.
C'est pas une vision un peu optimiste des choses, Mahmoud, ça?
Non,
ou est-ce que cette volonté de l'État de relocaliser, c'est pas cautère sur jambes de bois au moment où les entreprises vont fermer en masse?
Dans le plan du gouvernement, il y a deux choses. Il y a les aides à l'investissement, à l'innovation, qui auront des effets de long terme et qu'on peut soutenir, à mon avis. Il y a les aides directes aux entreprises pour relocaliser, que moi je mets en doute depuis déjà plusieurs années. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les relocalisations d'activités sur lesquelles j'ai travaillé depuis très longtemps, elles ont commencé dans certains secteurs dès les années 2010, après la crise des subprimes. Donc 2010, on observe une contraction du commerce mondial sur les échanges de biens intermédiaires importés, en provenance en particulier d'Asie, de Chine, à cause de deux facteurs clés, la hausse des coûts salariaux unitaires. Vous savez que le bon critère, c'est pas le niveau de salaire chinois par rapport au niveau de salaire français ou américain, c'est les salaires sur la productivité en Chine par rapport aux salaires sur la productivité aux États-Unis. Et il y a eu un rattrapage.
C'est-à-dire, parce qu'on a l'impression là que vous évoquez une formule mathématique en y mettant des mots.
Alors
ça veut dire quoi?
En fait, si vous avez, très très simplement, ce qui s'est passé en Chine, c'est que les salaires ont augmenté très très fortement sur ces dernières années, la productivité a augmenté, mais beaucoup moins rapidement. Donc en fait, les coûts salariaux par unité produite pour un ordinateur, ça a augmenté en Chine. Et ça a rattrapé...
Que les ouvriers chinois produisent moins d'ordinateurs.
Leur salaire augmente, mais les produits... Oui, moins d'ordinateurs...
Ils permettent à l'entreprise de gagner moins d'argent que...
Tout à fait. Et en fait, si je vous donne juste un chiffre, en 2000, le coût salarial unitaire par unité produite chinois et émergent était de 40% du coût salarial américain unitaire, et il est rattrapé aujourd'hui, à partir des années 2010-2012, on était à 95% déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un effet de rattrapage. Et puis, deuxième facteur, c'est que la robotisation s'est accélérée, dans un contexte de taux d'intérêt réel faible, ou même négatif, c'est que c'est très facile d'emprunter de l'argent, cela a poussé la productivité au nord, et donc a réduit les écarts de coûts salariaux par unité produite. Mais ça n'a pas touché de la même manière tous les secteurs. C'est là où la question des aides publiques doit être vraiment vue de manière très précise. Il y a des secteurs qui sont candidats naturellement à la relocalisation, il faut pas perdre de l'argent à leur donner des aides directes aux entreprises, parce que ça sera juste un effet d'aubaine, ou un effet de distorsion de concurrence par rapport à celles qui ne délocalisent pas, aux entreprises qui ne délocalisent pas. Or, c'est le cas, c'est tous les secteurs à matière solide pour lesquels il n'y a pas d'obstacle technique à robotiser les chaînes d'assemblage. Ceux-là, ils ont commencé leur relocalisation par eux-mêmes. Par exemple, l'automobile, la mécanique, l'électronique, etc. Mais ça n'est absolument pas le cas dans certains des autres secteurs, comme par exemple l'habillement, la chaussure, les secteurs à matière souple, pour lesquels le coût salarial dans la fabrication ou dans les opérations de montage ou d'assemblage représente encore 70% du coût total de l'activité d'assemblage. Donc, les entreprises vont continuer à délocaliser. Donc, les effets, si vous voulez, des relocalisations sont très différents selon les secteurs. Et puis, il y a un troisième type de secteur qui, lui, depuis la crise du Covid, ça s'est absolument accéléré. Ce sont les activités de service qui ont tendance à être de plus en plus desservies à distance. Donc, vous voyez, la situation est très hétérogène d'un secteur à l'autre. Et évidemment, les secteurs qui ont été choisis pour des aides sont des secteurs qui ont été définis comme des secteurs stratégiques. Mais là-dedans, à mon avis, on n'a pas tenu à ses comptes des effets de pervers qui peuvent exister et qui existent déjà. On l'a vu avec General Electric. D'ailleurs, le ministre de l'économie s'est offusqué de l'annonce du plan de General Electric de délocalisation. Ces effets de reconstitution de marge ou de distorsion de concurrence, ces effets pervers ne sont pas suffisamment pris en compte, surtout qu'il n'y a pas de conditionnalité à la relocalisation. Donc, alors, je suis très très dubitatif sur l'efficacité à moyen terme. À court terme, ça peut marcher, mais à moyen terme, des aides directes aux entreprises.
Qu'en pensent ceux qui ont, au sens premier du terme, les mains dans le cambouis, les ouvriers, ceux dont les emplois ont été décimés au cours des dernières décennies en France? Comment cela décrivent-ils l'hémorragie industrielle française de ces dernières années? Écoutez cet entretien que Frédéric Sanchez, le secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, un métallo comme on dit, a accordé à David Bachet du service économie de RFI. Pour ce syndicaliste, l'État un rôle très important à jouer aujourd'hui.
Mais je partirai de l'automobile, parce que c'est des cas concrets. L'automobile, aujourd'hui, les voitures les plus vendues sur le territoire national, que ça soit chez Renault, chez PSA, elles ne sont pas fabriquées sur le territoire national. Donc on a besoin d'avoir une réflexion qu'une partie de la fabrication des véhicules qui ont été délocalisés, soi-disant sur les pays dits à bas coût, hein, pays de l'Est, Amérique latine, etc., etc., qui eux aujourd'hui sont en surcapacité. Donc c'est pour ça qu'il y a... Nous, on est en sous-capacité sur un certain nombre de sites industriels, notamment sur la fabrication. Eux sont en surcapacité. On demande un rééquilibrage et que les productions qui ont été à un moment externalisées puissent être relocalisées.
Et comment est-ce qu'on fait pour rendre les territoires français plus attractifs que la Chine, la République tchèque, la Pologne, tous ces territoires vers lesquels se sont dirigées des activités qui étaient auparavant en France ?
Aujourd'hui, c'est bien évidemment, si on prend cette attaque sous l'angle des salaires, ou sous l'angle de la question du temps de travail, on ne peut pas rivaliser avec la CB. Ça, n'importe qui peut le comprendre. Mais aujourd'hui, considérer que la France ne serait pas assez productive, alors que c'est le pays le plus productif au monde, en niveau de charge de travail, horaire et journalière, c'est le pays le plus productif au monde.
Les ouvriers sont les plus rentables.
En termes de rentabilité, on est dans les mieux classés. On voit aujourd'hui qu'il y a une accélération d'une mise en concurrence des salariés d'un territoire à l'autre.
Mais du coup, comment on fait pour réorienter ces stratégies et contraindre, si je peux le dire comme ça, à relocaliser les activités en France ?
Aujourd'hui, il y a un État qui a son mot à dire, un État qui peut réfléchir à de nouvelles nationalisations d'un certain nombre d'activités qu'on considère stratégiques. On prend l'exemple, la sidérurgie, qui est un cas d'école. La sidérurgie, le gouvernement, les gouvernements successifs ont toujours considéré que c'était une filière stratégique pour le devenir industriel du pays. Pourquoi pas réfléchir à que certaines activités, ou pourquoi pas la filière sidérurgique, puissent être renationalisées, alors partiellement ou de durée plus longue, pour permettre un développement de ces activités. Il faut le rappeler que la sidérurgie, c'est quand même le poumon de l'industrie. Si on affaiblit la sidérurgie à l'échelle nationale, comment les autres industries vont pouvoir fonctionner de manière normale, si ce n'est aller chercher de l'acier dans les pays là aussi à bas coût, la Chine, la Russie, etc., etc. Donc oui, l'État a un rôle majeur à jouer. D'ailleurs, l'État, dans un certain nombre de groupes, est encore actionnaire. Il faut peut-être passer d'être actionnaire à, pourquoi pas, aller à des nationalisations.
Au nom de la souveraineté nationale ? Au nom de l'emploi ?
Au nom de l'emploi. Nous, la bataille qu'on mène, que ce soit au niveau métallurgie, mais plus largement dans la CGT, c'est la question de l'emploi. La question de l'emploi, il y a eu une érosion des emplois industriels depuis des décennies. Pour la filière automobile, on a perdu en 8 ans 52 000 emplois. Et si on regarde avec tous les emplois induits à l'automobile, c'est plus de 250 000 emplois supprimés. Aujourd'hui, on voit bien tout ce qui a été mis en place en termes de stratégie industrielle, en termes de vision industrielle, n'est pas une réponse au maintien, au développement de l'emploi. D'ailleurs, si on regarde l'emploi industriel sur les 10, 15, 20, 30 dernières années, il y a une érosion significative, voire massive dans un certain nombre de filières, dans l'automobile par exemple, dans la sidérurgie, dans la navale, dans la filière énergétique, auto General Electric. Il y a aujourd'hui une fuite en avant. Il y a un camarade de la fédération qui disait, on a l'impression qu'ils vendent les bijoux de famille, mais c'est ce qu'on sent aujourd'hui. Toute la richesse qui a fait la force de la France par son industrie, aujourd'hui on a l'impression qu'elle est démantelée pour toujours plus de profits, plus d'argent aux actionnaires, etc., etc. Donc on voit bien que cette stratégie aujourd'hui elle est plus bonne.
C'était donc Frédéric Sanchez, un métallo de la CGT au micro de David Bachet. Ce syndicaliste considère que l'État a un rôle très important à jouer. Vous êtes d'accord avec sa vision des choses, Mahmoud ? La France a perdu ses bijoux de famille, c'est une vraie saignée, une hémorragie, et il faut nationaliser, il faut passer par une action politique de l'État.
Moi, je crois qu'il y a une question qui est posée, c'est celle des secteurs stratégiques. C'est vrai que s'agissant du secteur des médicaments, par exemple, c'est pas du tout la même chose que dans d'autres types de secteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que ce que l'on observe, c'est que, un, la désindustrialisation, elle a plusieurs origines. Elle a pas que les délocalisations comme origine. Elle a une première origine qui est quand même l'augmentation structurelle des gains de productivité dans tous les pays industrialisés. En France, on a observé qu'il y a que 5% des emplois détruits au niveau macroéconomique, au niveau national, qui sont détruits à cause des délocalisations. Des délocalisations verticales, hein, celles qui consistent à fragmenter la chaîne de valeur, envoyer des morceaux pour être fabriqués ou assemblés ailleurs et réimporter le produit final, comme pour les médicaments. 80% des produits, des principes actifs viennent de Chine et d'Inde, parce que précisément on a fragmenté pour des mécanismes de différence de coût. Juste un point, 5% au niveau national. Mais ce qui compte, c'est pas le niveau national, c'est pas la moyenne, c'est que certains territoires, on a fait une étude là-dessus qui a été publiée dans l'économie et statistique, certains territoires peuvent être frappés à 80% de leurs emplois lorsqu'il y a une délocalisation. Or, les mécanismes de compensation ne marchent pas. Donc il y a un vrai problème qui se pose à la politique publique, c'est comment compenser les chocs locaux, les chocs locaux de la délocalisation sur certains territoires vulnérables. 20% d'entre eux ont été vraiment choqués considérablement, ce qui se voit pas tellement au niveau de la moyenne nationale, et comment les compenser par des différents types de mécanismes. Donc c'est pour ça que je pense que les aides directes aux entreprises sont relativement ont un effet marginal, au mieux, ou un effet d'aubaine dans le pire des cas, parce que le problème, c'est la compétitivité des territoires, des gens qui sont sur les territoires, des institutions qui sont sur les territoires, de la qualification sur les territoires. J'ai évalué le crédit d'impôt relocalisation 2005, la prime à la relocalisation 2008, puis l'aide à la réindustrialisation. Toutes ces aides n'ont pas marché. Entre 2005 et 2013, on avait fait un rapport pour le ministère du redressement productif sur les relocalisations en 2013, sur les 204 relocalisations, seulement 6% avaient utilisé les aides publiques. En revanche, dans ce que pose le syndicaliste de la CGT, il y a quelque chose sur si on définit des secteurs stratégiques comme la pharmacie, on a des raisons de les définir comme stratégiques, parce qu'ils ont des effets sur la collectivité, très très important. Si on a une crise d'approvisionnement dans la chaussure de sport, c'est pas grave, le consommateur peut passer de Nike à Adidas. Par contre, dans le médicament, ça a un impact social très fort. Donc là, la question de la propriété de l'État, de l'actionnariat des entreprises se pose en effet, ou la question des règles du jeu, la traçabilité des chaînes de valeur. Ce que je regrette dans le plan de l'État aujourd'hui, c'est que aucune proposition de changement des règles du jeu n'est sur la table. Or, c'est ça qui est fondamental.
Olivier Lehensy, vous étiez un peu mis en cause là dans ce que vient de dire Elmo Mboud, puisqu'il fait allusion au plan de 2013 du ministère, à une époque où vous étiez aux affaires, où vous étiez au cabinet de François Hollande à l'Élysée en tant que conseiller industriel. Au-delà de cette petite allusion, c'est un clin d'œil, dirons-nous. Que pensez-vous de l'intervention de Frédéric Sanchez de la CGT, qui met l'accent, lui, sur cette saignée industrielle dans l'industrie lourde, la bagnole, la sidérurgie, qu'en pensez-vous?
Alors, le premier point, c'est que cette saignée a eu lieu et que la cicatrice qu'elle a laissée n'a pas été vue comme telle globalement par notre société, par la France. Si on regarde, moi j'ai quelques chiffres qui sont pas tout à fait les mêmes, mais qui vont dans les mêmes sens. Le chiffre que j'utilise en général, c'est que entre 75 et 2010, le moment où on a arrêté de perdre des emplois industriels, vous avez certaines régions françaises qui ont perdu 25% de leur emploi. Pas 25% de l'emploi industriel, mais 25% de leur emploi à cause de la désindustrialisation. Ça, c'est un chiffre statistique. Mettez-le dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que chaque famille, chaque cercle intime, en l'espace d'une vie professionnelle, 30 ans, 30, 40 ans, a vu quelqu'un qui a perdu son emploi à cause de la désindustrialisation. Perdre un emploi dans ces territoires-là, c'est pas simple, c'est un drame professionnel, c'est un drame personnel, ça peut donner à des dérives, des explosions de famille, etc., etc. Cette cicatrice-là, qui touche à peu près la moitié de la France, on l'a dans les chiffres, on l'a pas dans le cœur. Ça, c'est le premier point, on s'est pas rendu compte comment on avait blessé. Et si on veut faire un parallèle, la désindustrialisation en France, commencée en 75, a été aussi vite que la mécanisation de l'agriculture en 50, avec l'exode rural. Et le résultat sera le même si on continue dans cette direction-là, et je m'explique. L'agriculture était au village, ce que l'industrie est aux villes moyennes. Nos villages sont devenus des très beaux villages de France, mais économiquement, on sait qu'il y a des villages qui ont été désertés, ils sont nombreux. Aujourd'hui, à cause de la désindustrialisation, nous avons à peu près la moitié de nos villes moyennes qui sont en déprise. Mot joli pour dire qu'elles ne sont pas sur une belle trajectoire. Et donc ça, cet effet-là, il a raison. Après, dans ce qu'il dit, il y a d'autres choses qu'il faut nuancer.
Là, vous répondez à Frédéric Sanchez. Hein.
Oui, tout à fait. Dans ce qu'il dit, dans la déclaration qui était faite. Ce qui est en train de se passer autour des enjeux environnementaux, de la digitalisation, de l'évolution des besoins de la société, va donner lieu à une redistribution des chaînes de valeur. On aura des micro-usines à côté des villes et des marchés pour faire de la personnalisation, parce qu'on veut tous un bien différent. On aura des entreprises de taille moyenne qui seront très flexibles, très digitalisées et qui serviront un marché qui peut être un pays, la moitié de l'Europe, voire l'Europe. Et comme on n'a pas encore décidé de changer complètement de modèle et je ne vois pas ça, il y aura des méga-usines qui, elles, chercheront le coût, le gain de coût et qui, elles, seront mondiales. Donc nos chaînes de valeur sont en train de se faire. Je ne sais pas où on peut positionner la sidérurgie là-dedans, parce qu'il y a quand même des frais de transport, mais s'imaginer que l'on va ramener l'entièreté de l'industrie sur un territoire national et même européen est simplement une illusion. La première chose qui se passe, c'est effectivement sur des industries stratégiques qui touchent à notre souveraineté, ou comme on l'aperçoit, la santé pouvant en faire, oui, l'État investit. Mais l'État investit combien ? Un milliard, vous avez une aide de 30%, ça veut dire 3 milliards d'investissements. Avec 3 milliards d'investissements, vous faites quelques milliards de chiffre d'affaires par rapport à un PIB qui est largement au-dessus. On est sur des biens stratégiques qui ne pèsent pas tant que ça. Ils sont importants dans l'économie.
Mais comment expliquer que la France ait perdu à ce point ces industries-là, Helmut Mood, au cours des décennies passées ?
Enfin, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Il faut mettre un peu d'ordre dans la définition de ce qui est délocalisation et relocalisation. Il y a d'abord les gains de productivité, on en a parlé tout à l'heure, qui se sont accélérés considérablement. La demande aussi qui s'est beaucoup adressé aux services, plus qu'à l'industrie. Et puis, il y a la question de la croissance, tout simplement, des écarts de croissance. La croissance est devenue atone en Europe depuis les années 90. Donc, en fait, la demande est devenue atone en Europe. Donc, quels ont été les marchés qu'on est allé chercher ? Ça, c'est pas des délocalisations dont on est en train de parler, c'est l'accès aux marchés. Comment on va chercher les marchés ? On va les chercher par l'exportation, mais quand l'exportation est coûteuse, Renault exporte des voitures, si c'est très coûteux d'exporter au Japon, on fait une fusion-acquisition et on rachète Nissan. Donc, il y a eu un déplacement des centres de gravité pour aller chercher les marchés par l'investissement direct à l'étranger. Ce que nous appelons les délocalisations horizontales. C'est-à-dire qu'on réplique ce qu'on fait en Europe pour le faire ailleurs. Et ça a provoqué beaucoup plus que les délocalisations verticales dont on parlait tout à l'heure, celles qui consistent à fragmenter la chaîne de valeur en morceaux, faire venir des morceaux de biens d'ailleurs, etc. La délocalisation horizontale était beaucoup plus puissante parce que c'est celle qui est portée par la demande, par la croissance économique. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce phénomène de délocalisation horizontale d'investissement à l'étranger a emporté avec lui des compétences, a emporté avec lui de la recherche-développement. Par exemple, la recherche-développement ne se fait plus seulement dans les pays d'origine. Dans les années 90, il y avait que 10% de la recherche-développement, des dépenses de recherche-développement qui sont à l'origine de l'innovation, qui se faisaient dans les sociétés mères des multinationales. Aujourd'hui, c'est 50% des dépenses de recherche-développement et de l'activité de dépôt de brevets de recherche-développement qui se fait en dehors des multinationales, dans leurs filiales directement. Donc ce mouvement-là de délocalisation à la conquête de marché, personne n'est en train de le mettre en doute parce que personne ne va nous dire on va faire revenir les activités pour être desservir les marchés. Les marchés sont trop petits. Les entreprises ont cherché des marchés ailleurs.
C'est la mondialisation.
Ça, c'est la mondialisation.
Olivier Lehensi, absolument. On va laisser la parole à Olivier Lehensi.
Je mettrai une petite nuance. Certes, la mondialisation a été un facteur qui a donné lieu à de l'accès au marché et donc de l'investissement qui s'est fait vers des marchés qui se développaient et pas sur nos marchés qui étaient plus stagnants. Néanmoins, quand on regarde un peu l'historique, je reviens au début de la désindustrialisation, 75 jusqu'à aujourd'hui, je considère que la délocalisation a été un choix collectif que nous avons fait. De 75 à 90, tout le monde a délocalisé, choc pétrolier. En revanche, en 90, il y a un événement clé qui est la chute du mur de Berlin et la mondialisation s'accélère. Et là, vous avez en Europe, et donc je parle bien de pays comparables à la France, deux typologies de pays. Pour faire simple, vous avez ceux qui ont décidé de s'insérer dans la mondialisation en étant des producteurs de biens haut de gamme qui correspondaient à leur modèle de coût, qu'ils exportaient.
Ça, c'est l'Allemagne ?
Clairement, c'est l'Allemagne. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. L'Italie du Nord et les Pays-Bas ont été aussi sur ce modèle-là. Et puis, vous avez d'autres pays, comme la France, qui ont joué une autre carte pour la mondialisation, qui est de dire la mondialisation, certes, il y a l'opportunité de marché, mais il y a surtout l'opportunité de fabriquer moins cher. Et la France a joué cette carte-là, et on le voit très très bien dans les courbes d'industrie dans le PIB. À partir de l'année 90, l'Allemagne l'a stabilisé autour entre 20, 22, 23, 24%, ça dépend un peu des métriques, tandis que la France, après une hésitation dans les années 90, qui correspondait peut-être à une situation économique particulière, est repartie à la désindustrialisation jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a quand même été un choix collectif que nous avons fait, qu'il ne faut pas reprocher, encore une fois, faut pas stigmatiser, il y a des mots des fois un peu durs qui sont employés aujourd'hui, même si vous comprenez que ce n'est pas ma préférence. On a fait un choix, on s'est sans doute trompé. Voilà. Et aujourd'hui, la donne, elle est rebattue, et je reviens sur des fondamentaux. Les écarts de salaire pas directement ce qui tombe dans la poche, mais salaire plus productivité font que la compétitivité qu'on avait en Chine n'est plus la même aujourd'hui. On va reprendre les exemples des médicaments. Quand on a délocalisé, la différence de coût était à peu près de 40% entre produire un médicament en France ou le produire en Asie. Aujourd'hui, il y a toujours une différence de coût, mais elle est de 20%. Juste pour illustrer un petit peu ce type de différence. Et on a la conviction, on est plusieurs à partager la conviction, que sur toute une série de catégories de produits, la France, elle est compétitive en termes de coûts aujourd'hui. Parce que ça fait 10 ans qu'on y travaille, avec le CICE, avec une trajectoire d'impôts, etc. La difficulté qu'on a aujourd'hui pour profiter de ce potentiel, et vous l'avez souligné, c'est que des usines, ça s'insère pas dans des métropoles, ça se met dans des territoires, que ces territoires ont été paupérisés, y compris en ingénierie, qu'il faut y remettre du cadre de vie. Vous faites pas une industrie 4.0 sans attirer des ingénieurs. Et donc, vous donnez au choix aux jeunes ingénieurs qui sortent de l'école une belle métropole, Paris ou une de nos 15 belles métropoles, et puis une ville moyenne. Il faut qu'il y ait un cadre de vie pour attirer ces gens. Il faut qu'il y ait des formations. Donc aujourd'hui, on est compétitif coût sur plein de choses et on profite pas encore de ce potentiel parce qu'on n'a pas reconstruit le cadre de vie de ces usines qu'on pourrait faire.
Alors je voudrais qu'on reste dans une phase un peu historique d'explication de ce qui s'est passé. Une des petites phrases qui aura marqué la période de désindustrialisation, c'est celle de Serge Tchourouk qui en 2001, alors PDG d'Alcatel, vantait le modèle d'entreprise sans usine. Une phrase qu'il a prononcée le 26 juin 2001, c'est une phrase historique, parce que ça a fait beaucoup de remous à l'époque. Écoutez ses explications 3 jours plus tard, le 29 juin 2001, explication retrouvée par la Sonothèque de RFI.
Il s'agit d'une externalisation, c'est-à-dire que nous ne fermons pas les sites, il n'y a pas de problème d'emploi, donc c'est ça la réalité. C'est que nous ne débarrassons pas d'usines. Nous cédons des usines et une activité qui est profitable, qui a été développée considérablement, qui gagne de l'argent, mais qui sera mieux positionnée dans un contexte externalisé. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour réagir de façon responsable. Nous préférons travailler avec des sociétés de grande envergure, dont nous savons qu'elles sont là pour durer et non pas disparaître au premier souffle. Nous préoccupons de savoir ce que deviendront nos équipiers. Et je dois vous dire que la qualité des gens d'Alcatel étant souvent reconnue et étant ce qu'elle est, c'est bien volontiers d'ailleurs que ces gens-là intègrent les équipes et les dirigeants d'Alcatel qui suivent très généralement, bien sûr, les sessions d'usine quand elles ont lieu.
Serge Tchourouk, le 29 juin 2001, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons désindustrialisation, relocalisation, avec deux invités, Olivier Luancy, associé chez PwC, PricewaterhouseCoopers, et le professeur El Moumoud, qui enseigne l'économie à l'Université Paris-Dauphine. Cette phrase, Olivier Luancy, elle marque un tournant dans l'industrie française, dans l'ère post-industrielle, comme on dit.
Alors, elle marque pas un tournant, mais elle est emblématique de la réflexion collective du choix que nous avons fait. Je suis pas sûr qu'on l'ait explicité auprès de nos concitoyens, mais du choix collectif que nous avons fait de rentrer dans une société post-industrielle, très clairement. Et j'écoutais ce commentaire qui est quand même 3 jours après la phrase emblématique, hein, et qui dit qu'on va garder les usines et on va en fait les externaliser. Rien que le fait de penser, et c'était une erreur collective, encore une fois, il ne faut blâmer personne, qu'on peut séparer la partie intellectuelle de concevoir un bien et puis la partie fabrication, qu'on peut couper la tête des mains, est sans doute une erreur fondamentale que nous avons faite depuis 1975. Après, est-ce que les usines sont restées en France? Est-ce que c'était son projet initial simplement de les externaliser? Là-dessus, il faudrait demander à l'auteur de cette phrase.
El Moumoud.
Il y a juste un contre-exemple qui dément totalement l'idée d'avoir de maintenir des emplois et d'avoir de ne pas avoir d'usine, c'est le cas de l'usine Plantel de Mask de Bretagne, puisqu'en fait quand elle a été rachetée par Honeywell, le groupe était un peu comme dans l'idée d'Alcatel, là, c'est-à-dire en fait un groupe qui possédait des usines un petit peu partout. Et quand les commandes publiques ont chuté en 2011 de Mask, justement, on en a parlé pendant la crise du Covid, cette entreprise n'était plus rentable aux yeux des actionnaires, aux yeux du groupe, et ça a été délocalisé en Tunisie précisément. Donc en fait, on a connu ça depuis longtemps. D'ailleurs, au même moment où à peu près au même moment, en 2001 déjà, puisqu'on fait un peu d'histoire, vous avez eu cette usine Virvol de Renault qui a été arrêtée en Belgique. Oui. Pourquoi ? En fait, c'était une usine qui marchait super bien. Elle était productive, avec des robots, des gens super qualifiés, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'un groupe peut se permettre de balancer totalement une usine sur laquelle il a investi beaucoup en matière ? Parce qu'en fait, le coût de sortie des usines, le coût d'abandon, le coût du désinvestissement ou de la délocalisation n'est pas un coût absolu mais relatif. C'est-à-dire que ce qu'a fait Renault à ce moment-là, c'est de réduire la voilure en Europe pour augmenter la rentabilité financière de l'entreprise. Et ça s'est produit, ça s'est traduit par une de meilleurs d'ailleurs résultats financiers, et de sorte que le coût d'abandon a été très largement compensé par les gains boursiers qui ont été faits ailleurs. Donc, si vous voulez, dans les délocalisations, il y a trois motifs qui se combinent et qui font que elles persistent, ces délocalisations, en dépit des rattrapages de coûts salarial par unité produite. Il y a le coût salarial, et vous l'avez dit aussi, on observe ce rattrapage très nettement entre les pays émergents. Alors, dans certains cas, les entreprises robotisent et reviennent dans leur pays d'origine ou dans les espaces de demande, mais dans d'autres cas, elles font des délocalisations itinérantes. Par exemple, le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure, etc., là où on automatise pas, bah, quand ça augmente en Chine, on va au Vietnam, quand ça augmente au Vietnam, on va
au Bangladesh,
ou on va en Éthiopie, etc. Ces délocalisations itinérantes sont liées au fait que certaines entreprises ont des avantages qui leur sont propres, c'est-à-dire de leur logistique, et ne dépendent pas des attributs des territoires. Et vous pouvez faire revenir des entreprises de ce type, mais elles repartiront aussitôt que les aides auront été, et je les observe depuis 30 ans encore une fois, depuis que les aides auront été terminées. Juste 6 mois avant la fin des aides, comme tout à coup, vous allez avoir des entreprises qui vont repartir. C'est pour ça que je suis très inquiet sur le plan d'aide directe aux entreprises, parce que elles vont revenir dans les médicaments, elles vont fabriquer un peu de Doliprane, un peu de machin, etc. Mais quand l'effet du Covid va se disparaître, quand, si on découvre un vaccin, les choses redeviendront éventuellement à la normale, business as usual, et on va repartir. Donc c'est un puits sans fond. Il faut au contraire concentrer les efforts sur la recherche et développement, l'innovation, les territoires, les personnes, les gens qui sont sur les territoires, et pas sur des entreprises à qui on donne des effets d'aubaine. Je le répète,
parce que on sent la passion qui vous anime.
Mais parce que ça fait 30 ans qu'on en parle, et qu'on, nous, en tant qu'économistes, on mesure ces effets, et je comprends pas qu'on refasse aujourd'hui les mêmes erreurs. C'est ça qui me...
Ça dépend comment on le prend. Si on prend encore une fois sur des objets de souveraineté sur lesquels l'État est légitime à intervenir de manière durable pour éviter l'effet d'aubaine, j'ai pas de problème.
Oui, mais alors il faut changer les règles du jeu dans ces cas-là. Donc, on n'a pas parlé de changement de règles.
Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la crise nous apprend aussi, on avait des facteurs d'évolution de l'industrie qui allaient nous conduire à de la relocalisation naturelle, spontanée. On les a évoqués, la digitalisation, les enjeux environnementaux, l'hybridation produits-services, etc. Tout ça allait nous amener, on a commencé à voir les premiers effets et c'était clairement identifié. La crise nous amène à un nouveau facteur qui est fort, elle nous fait prendre conscience, encore une fois, une crise est un accélérateur, qui est la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on a fragmenté des chaînes d'approvisionnement pour aller chercher l'optimisation du coût de l'efficacité. On n'a pas pris complètement en compte le facteur risque, une frontière qui se ferme, une crise sanitaire, une guerre commerciale peut-être demain entre les États-Unis et la Chine, dont on aura des effets collatéraux. En Europe, ça c'est certain. Et quand on demande aux entreprises, y compris les PMI aujourd'hui, de faire un listing de leurs approvisionnements, on se rend compte qu'on a à peu près 20% des approvisionnements faits à l'étranger qui présentent des profils de risque trop élevés. Donc si on va vers les relocalisations aujourd'hui, un des premiers axes immédiats, en dehors de la tendance de fond, ce sera la sécurisation des approvisionnements. Encore une fois, on est sur un phénomène économique où le coût du risque est internalisé par l'entreprise et qui préfère peut-être payer 5 ou 10% plus cher quelque chose fabriqué en France plutôt que très loin, parce qu'elle considère que dans son calcul global, il y a le bénéfice.
Un exemple de réindustrialisation, de relocalisation, on part dans la région lyonnaise. Le groupe Coverguard est spécialiste des équipements de production individuelle depuis 85 ans. Il est implanté à Miribel, dans le département de l'Ain, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Et à l'occasion de la pandémie de Covid-19, l'entreprise a décidé de rapatrier la fabrication de masques respiratoires à usage unique qu'elle faisait jusque-là fabriquer ailleurs. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Clémentine Métenier.
Les 3 récentes machines installées sont au travail. Les 4 employés aussi, bouchons vissés dans les oreilles pour se protéger des ultrasons provoqués par la soudure. La visite nous est faite par le PDG de l'entreprise.
Je m'appelle Brice de la Morandière. Je suis le directeur général de CoverGuard, qui est une entreprise spécialisée dans les équipements de protection individuelle et qui est une entreprise française, mais de taille européenne.
Et donc vous avez sur le nez un masque signé CoverGuard IG.
Oui, on fabrique des masques depuis le mois de juin, entre mars et mai. On a acheté deux lignes de fabrication de masques, une ligne FFP2 et une ligne de masques chirurgicaux.
Gants, chaussures, vêtements de protection, la majorité de la production de CoverGuard est faite à l'étranger depuis plusieurs décennies. La fabrication des masques, quant à elle, est envisagée dans une toute autre stratégie, nous explique le PDG.
C'est une entreprise qui avait l'habitude de faire fabriquer ses produits et généralement de les faire fabriquer en Asie, que ce soit en Chine, en Inde, au Bangladesh, au Vietnam, etc. Parfois, il y avait des productions qui étaient plus proches, au Maghreb ou même en Europe de l'Est. Mais là, effectivement, on a décidé de monter ces deux lignes de fabrication de masques en France, dans une place qui était inoccupée dans l'un de nos entrepôts.
Alors, est-ce que vous avez fait ce choix parce que l'État l'a demandé ou parce qu'à un moment, vous y avez vu un intérêt, vous ?
En fait, il y avait un petit peu deux raisons. En réalité, évidemment, il y avait le Covid, mais ça correspondait aussi à une stratégie industrielle de l'entreprise de fabriquer un certain nombre de produits que l'entreprise considère comme importants, ce qui nous permet à la fois d'avoir plus d'innovation, d'exprimer un savoir-faire plus précis vis-à-vis de nos clients, très franchement aussi de raccourcir toute la ligne logistique de la production à la commercialisation. Et ce, effectivement, en dépit du fait que, eh bien, quand on se relocalise, les coûts de mise en place sont quand même relativement élevés. Et effectivement, les coûts de la main-d'œuvre en France sont de manière structurelle beaucoup plus importants que les coûts de main-d'œuvre dans tous les pays que je viens de citer.
Objectif pour CoverGuard, fabriquer 5 millions de masques FFP2 et 10 millions de masques chirurgicaux par an. Aujourd'hui, encore au stade des réglages, les employés assurent 40% de cette production.
Reportage signé Clémentine Métainier, Olivier Luensi, je vous voyais opiner du chef et dire, en gros, tout ce qui est dit dans ce reportage confirme vos déclarations,
oui,
votre pensée.
Tout à fait, j'aime bien ce type de reportage où on arrive à faire la jonction entre un cas concret, hein, et encore une fois, je découvre le reportage en même temps que vos auditeurs, et puis une réflexion globale. Aujourd'hui, il y a une tendance de fond à une relocalisation, pas de tout, pour des raisons purement économiques. Je veux maîtriser ma chaîne de valeur. Je ne peux pas séparer la tête et les mains, l'innovation et la production. J'ai besoin de sécuriser, etc. Ça, c'est une tendance de fond qui existe. Elle était lente. Elle va sans doute s'accélérer.
Oui, mais moi, c'est quelque chose que j'observe, je vous l'ai dit tout à l'heure, avant même le Covid. Et effectivement, il y a des secteurs qui sont candidats naturellement à la relocalisation. Et ça se traduit pas forcément d'ailleurs par des relocalisations de retour dans le pays d'origine ou dans le bassin d'emploi. Dans l'étude que nous avions faite pour le ministère de redressement productif en 2013, nous avions observé trois types de relocalisations. Des relocalisations de retour, finalement assez marginales, assez peu pérennes d'ailleurs, qui repartent assez facilement. Des relocalisations d'optimisation. Par exemple, une entreprise de mode qui avait relocalisé en France, dans son site français. Et puis, il y avait des relocalisations de développement compétitif, qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors, on a observé qu'il y avait certaines entreprises qui importaient des biens intermédiaires et qui se sont mis, grâce à l'innovation, à les produire en France. Ça, c'est super intéressant, parce que c'est ce que j'appellerais des relocalisations schumpeteriennes, c'est-à-dire des relocalisations fondées sur l'innovation. Là, c'est pour ça que, dans le plan de relance, il me semble que le plan le plus intéressant, c'est la concentration sur l'innovation. Là, on aura des effets à moyen terme beaucoup plus pérennes. Mais les aides directes ne marchent pas quand on n'a pas changé les règles du jeu. Et deux règles du jeu qu'on n'a pas changées. Et qui font que la traçabilité des chaînes de valeur, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que les entreprises peuvent produire et fabriquer ailleurs et maquiller leur stratégie de délocalisation. Pourquoi on n'a pas changé les règles du jeu ? Parce que c'est le code douanier européen qui empêche les États, par exemple la France, de mettre un « made in France » sur les produits. Donc il n'y a pas d'incitation forte sur le plan réglementaire. Et puis il y a un deuxième élément qu'on n'a pas modifié, c'est le ciblage des aides publiques, en particulier du crédit d'impôt recherche, qui reste trop dispersé sur 40% vers les services et 60% uniquement vers l'industrie. Je pense qu'il y a beaucoup plus de réflexion à avoir encore sur l'efficacité des plans à moyen terme, parce que la crainte que j'ai, si vous voulez, c'est que on peut très bien accompagner des mouvements qui auraient eu lieu de toute façon par eux-mêmes, c'est ce que vous disiez également, et finalement fragiliser dès lors que les marchés publics vont baisser, on va repartir de nouveau dans les secteurs qui sont eux candidats à la mise en concurrence des territoires.
C'est ça qu'il faut avoir comme. Je vous arrête parce que on va partir en Tunisie pour un nouveau reportage. Ces relocalisations, il n'y a pas que les milieux économiques et politiques français qui en rêvent au sud de la Méditerranée, on en parle aussi. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs signé Michel Picard à Tunis auprès des décideurs tunisiens.
En Tunisie, où le chômage atteint 18%, les centres d'appel recrutent de nombreux jeunes diplômés, à l'image de Tunis Call Center, dont les centaines de salariés assurent en plusieurs langues des services clients de grandes entreprises européennes, vendent des cours en ligne, organisent des déménagements ou prennent des rendez-vous médicaux. Ici, les agents ont un minimum de bac plus 2, selon Fouad Cheraga, son directeur général.
Ils partent d'une université avec des rêves plein la tête et malheureusement, ils sont confrontés à la dure réalité. Il n'y a pas de job qui corresponde vraiment à ce qu'eux, ils s'attendaient. Et on a même des gens qui ont un bac plus 9. Hein. J'ai quelqu'un qui est ingénieur en pétrole ici et j'ai des médecins qui n'ont pas pu ouvrir leur cabinet. Ils ont commencé à travailler dans un hôpital, mais ils ont fini par travailler dans un centre d'appel parce qu'ils gagnaient mieux leur vie. Nous, aujourd'hui, un agent moyen, on va dire, tourne autour de 1500, 1600 dinars par mois. Un très bon agent, il peut être autour de 3000 dinars par mois.
Soit beaucoup plus que le salaire moyen, estimé entre 650 et 750 dinars, entre 200 et 250 euros. Une motivation qui a compté lorsque Mahmoud Boudabous a rejoint l'entreprise il y a 6 ans.
Je peux dire que je gagne beaucoup plus que la plupart des personnes qui ont fait des études avec moi.
Des niveaux de rémunération rendus possibles par le développement d'activités à l'étranger. Ainsi, Tunis Call Center réalise 96% de son chiffre d'affaires à l'export. Yosra Ben Saïd travaille depuis 10 ans en centre d'appel.
Pour être honnête avec vous, nous avons pas mal de prestataires qui disent qu'ils ont déjà fait appel à des calls existants en France et qu'ils n'ont pas été satisfaits.
Ces succès ont entraîné un essor mal contrôlé des centres dont certains ne respectent ni normes ni droits du travail. Mais l'économie tunisienne s'est construite en travaillant pour des pays étrangers, nous rappelle Hakim Ben Hamouda, ancien ministre de l'économie.
C'est bénéfique et puis c'est toute l'histoire de l'économie tunisienne. Ça a été un choix stratégique d'ouverture sur l'extérieur, attirer des investisseurs étrangers, faire de l'exportation et de l'investissement étranger des moyens importants de croissance.
Pour l'économiste tunisien, le pays pourrait bénéficier des leçons que l'Europe va tirer de la pandémie du Covid.
On s'est rendu compte de la difficulté d'une organisation du monde sur une base globale. Lorsqu'on a fermé les frontières, il était difficile en Europe, par exemple, de recevoir des pièces détachées ou d'Asie. Donc la réflexion se porte aujourd'hui sur la possibilité de réorganiser les chaînes de valeur européennes sur les bases régionales, c'est-à-dire en concentrant les activités en Europe et dans le sud de la Méditerranée. Et de ce point de vue, la Tunisie, le Maroc, probablement l'Égypte aussi, peuvent être partie prenante de cette nouvelle dynamique, de cette nouvelle réorganisation des chaînes de valeur sur des bases régionales.
Un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs signé Michel Picard à Tunis. Olivier Luansi, c'est une dimension qui n'était pas présente jusqu'à présent dans cette émission. Chaque chose en son temps. Une double dimension, là, les chaînes de valeur européennes qui s'étendent jusqu'au sud de la Méditerranée. C'est-à-dire, il y a l'Europe et puis il y a le Maghreb ensemble qui profiteraient de relocalisation venue d'Asie.
Ah, très clairement. Encore une fois, on met de côté les relocalisations pour des questions de souveraineté soutenues par la puissance publique. On se focalise sur les relocalisations à intérêt économique, long terme ou court terme. Et là-dessus, il y a toute une nuance. Et donc, il y a des arbitrages qui vont être faits par un certain nombre d'entreprises entre le coût et le risque, le niveau salarial et la distance. Et les vrais concurrents du pourtour méditerranéen, c'est les pays d'Europe de l'Est pour nos entreprises, pour les marchés d'Europe de l'Ouest. Donc, très clairement, dans ce mouvement-là, il y aura une partie qui ira vers ces pays-là. Le point pour eux, c'est qu'ils sont en concurrence directe avec l'Europe de l'Est et ils ne font pas partie de l'Union européenne. Donc il faut qu'ils trouvent avantages, inconvénients dans cet équilibre-là.
Oui. Mais quand on parle de relocalisation, Olivier Luansi, quand les Français veulent attirer à eux les industries qui sont parties, les services qui sont partis, est-ce que ça n'est pas au détriment de l'économie de ces pays tiers ?
Encore une fois, là-dessus, il faut remettre les choses à leur juste mesure. On a parlé des quelques milliards de chiffres d'affaires que peuvent donner lieu les relocalisations souveraines ou en tous les cas aidées par l'État. Si on regarde les relocalisations pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, je me projette pas dans le moyen terme, juste rapidement, on a un monde qui devient plus incertain. L'estimation qu'on en fait, nous, c'est à peu près 40 milliards d'euros d'importation qui seraient relocalisés. D'accord? À peu près 10%. des importations. On n'est pas à un niveau de démondialisation, encore une fois. Et donc, la première élément de réponse, c'est que on fait un ajustement sur un modèle économique qui a certainement montré ses limites de sécurité, mais on ne renverse pas la table. Le deuxième point, c'est que par rapport à ce sujet-là, je pense que des guerres commerciales, des tensions très fortes entre les grands ensembles économiques, l'Europe, la Chine, les États-Unis, vont avoir un effet sur la répartition de la richesse encore plus puissant que notre petit sujet de la relocalisation. Là-dessus, la question, c'est est-ce que la relocalisation peut avoir un effet sur le développement de pays qui étaient à bas coût et qui attiraient de l'activité pour se redévelopper? Un, l'effet de relocalisation pour la sécurisation est relativement mineur à l'échelle de l'ensemble des échanges, à peu près 10%, hein, 15% peut-être, mais c'est le grand maximum. Et deux, c'est certainement un effet très secondaire par rapport au choc tectonique qu'on est en train de connaître.
Il y a le moment deux constats, deux projections. Un, la relocalisation dans l'industrie, en particulier dans les secteurs pondéreux, pour les sensibles beaucoup
pondéreux.
De transports lourds, volumineux, sensibles beaucoup de transports et robotisables, c'est un acquis. Ça reviendra, je dirais. C'est déjà en train de revenir. D'accord? Les industries pour lesquelles les coûts de transport pèsent, les droits de douane, les coûts carbonés.
Vous voulez dire que la sidérurgie va revenir?
Bah, la sidérurgie, c'est déjà du passé d'une certaine manière. Mais si vous prenez, par exemple, je vous prends les meubles, ça n'a plus beaucoup d'intérêt de délocaliser des meubles très loin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de délocaliser des morceaux de
cartes. Voilà. Les cartes électroniques, on s'imagine tous ces grandes rangées d'opérateurs, plutôt des opératrices pour leur minutie, et plutôt en Asie pour le coût salarial. Et aujourd'hui, les cartes électroniques sont compétitives en France parce que c'est des robots qui positionnent les composants sur... Voilà un exemple de changement.
Les batteries. Il y a une industrie qui va revenir et qui est déjà en train de revenir. En revanche, l'angle mort, c'est les services. Une étude de l'OCDE 2020 montre que 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE des emplois dans l'industrie, je parle même pas des services qui sont en dehors de l'industrie. Dans l'industrie, 40% des emplois sont des emplois de services. Marketing, machin, tout ce que vous voulez. Et ce qu'a provoqué le Covid et le confinement, c'est un effet d'apprentissage majeur sur la desserte de services à distance. Donc la délocalisation des services. Et la part des services industriels, je parle bien des services dans l'industrie, qui étaient fournis à distance, qui étaient délocalisés, est passée de 10% à 20% en 15 ans. Donc on a un phénomène d'accélération de la délocalisation des emplois numérisés, justement. Et donc la chance des pays du sud de la Méditerranée, c'est de jouer cette carte d'accueil des activités servicielles et pas forcément industrielles, parce que les compétences, on a parlé de la Tunisie à l'instant, les compétences effectivement peuvent être assez relativement rapidement formées pour accueillir des services de haute valeur ajoutée d'ailleurs, et je pense que les services vont de plus en plus partir, et que le phénomène de délocalisabilité des activités de services, qui est un phénomène relativement récent par rapport à l'industrie, va s'accélérer. Donc en fait, on fait une erreur de considérer que la relocalisation, c'est la réindustrialisation. Ça n'est pas forcément la réindustrialisation.
Le mot de la fin, Olivier Luancy.
Oui, je ne suis pas sûr de partager sur les services, parce que des services délocalisés comme en Inde, par exemple, lorsque l'Inde a confiné, vous ne faites pas travailler les gens à la maison. Et donc, il faut qu'ils soient au travail. Et donc, ces services-là aussi, dans des chocs dissymétriques, quand il y a une crise sanitaire d'un côté ou l'autre, on a vu aussi la limite et l'impact que ça pouvait avoir sur l'économie. Le mot de la fin, sinon, on a parlé pas mal du plan de relance. Moi, j'ai un message. On peut toujours bouger des curseurs, trouver des modalités qui sont bonnes. Il y a quand même, et c'est la première fois, un tiers qui est fléché sur l'industrie. On retrouve un discours sur le fait que l'industrie a une place dans notre pays et dans son économie. C'était un discours qui montait doucement, là il a pris de l'ampleur. Ça, je pense que c'est vraiment à saluer, parce que on ne refera pas un outil productif si on n'a pas un discours collectif, une acceptation des bénéfices et aussi des inconvénients, il y en a, de cette activité dans notre pays.
C'est la fin de cette émission. Je veux juste dire qu'on n'a pas parlé écologie, on n'a pas parlé environnement, mais quand on parle industrie, il faut y penser. Ce sera l'objet certainement d'une prochaine émission. Merci à vous deux, Olivier Luancy et El Moumou, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de votre smartphone à l'onglet émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures écologiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.